Eh bien, nous commençons notre carême. Je pense que nous le commençons bien, donc, par une journée de désert. Ça. Et comme c'était annoncé dans le petit article que nous avons là, ça, le désert prélude à la miséricorde. Ben, vous savez que le pape François a décidé que cette année serait une année de la miséricorde. Et il est remarquable que dans l'Église, eh bien, la liturgie nous invite, pour pouvoir exercer la miséricorde nous-mêmes et en bénéficier, nous allons voir tout ça, eh bien oui, il est bon de se préparer par un temps de désert, précisément. Donc nous y sommes là, n'est-ce pas ? Cette journée sera donc une journée de désert. Nous allons voir un peu en quoi cela peut consister. Et simplement nous dire que le carême est un moment donc où il nous est demandé de vivre un peu plus intensément notre vie chrétienne. Et donc, si vous le voulez, nous allons voir ce que c'est que la miséricorde et ce que c'est que notre carême lui-même, qui va nous permettre précisément de vivre le mystère du désert, d'une certaine manière. Voilà, vous voyez un petit peu, donc dans un premier temps, on regarde un peu ce que ça veut dire la miséricorde, et puis après on voit ce que ça veut dire le Carmel, pour l'Église, pour chacun, et pour nous maintenant. Voilà, le programme, si vous voulez. Et commençons donc par la miséricorde. Et le mot misericordia en latin, miséricorde en français, il n'y a pas grande différence, eh bien, ça veut dire quand même la misère penchée, sous-entendu, sur le cœur, n'est-ce pas ? Ou plus exactement, peut-être, le cœur penché sur la misère. Et quand on pense à la miséricorde, souvent, on pense au pardon, tout simplement. On m'a fait miséricorde, j'ai été puni, et puis quand j'étais enfant, par exemple, bon, et puis à un moment donné, ben, la maman a dit, ben non, écoute, hein, c'est terminé, n'est-ce pas ? Et donc, la miséricorde, c'est, si vous voulez, un petit peu une compassion qui enlève la souffrance. Et effectivement, je crois que la miséricorde, donc, c'est pas uniquement le pardon reçu ou donné. C'est beaucoup plus large. C'est en réalité la compensation, si l'on peut dire, à la misère. Regardons cela d'un peu plus près. La compassion à la misère. Et la compassion, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'abord sentir la souffrance de l'autre, n'est-ce pas ? Être en communion avec lui à ce point de vue-là. Mais il ne suffit pas de sentir. Il faut, autant que possible, que nous fassions ce qui dépend de nous pour justement alléger cette misère, consoler la souffrance, faire ce qu'il faut de ce côté-là. La miséricorde, c'est une réalité active. On donne le pardon, mais on se penche sur la misère en se mettant d'une certaine manière à la place de celui qui est dans la misère et en s'efforçant de le comprendre, et d'après l'avoir compris, d'agir autant qu'on peut pour le soulager. Donc, miséricorde, c'est à la fois compassion et action pour ôter la misère. Alors, regardons la miséricorde. Bah, c'est d'abord dans sa plénitude, c'est en Dieu lui-même qu'on la trouve. C'est si vrai que les musulmans appellent le Dieu qu'ils honorent, le même que nous, ils l'appellent le miséricordieux. Et nous-mêmes aussi, nous savons que Dieu est amour, donc il est miséricorde. Et petite Thérèse, dans son acte d'offrande, eh bien, elle fait l'offrande d'amour à, à l'amour miséricordieux, précisément. Donc, l'amour qui tient compte de la misère. Notre Dieu nous a créés, tous, toute l'humanité, tant que nous sommes. Il nous a créés parce qu'il nous aimait. Parce que l'amour qu'il est lui-même, cet amour entre lui, le Père, le Fils et l'Esprit, cet amour qui est joie de leur amour commun, la joie c'est communicatif, il a voulu que nous soyons aussi à la fois des interlocuteurs valables et des gens capables de partager cette foi, tout simplement, cette joie. Pardon. Alors, Dieu aime son peuple, et en particulier, eh bien, tous ceux, évidemment, qui sont, par le baptême, ses enfants. Mais c'est toute l'humanité à laquelle il est miséricordieux. Et donc, il voit la misère de ce peuple, sa souffrance, et quelle est sa misère principale ? Son péché, bien sûr. Car c'est le péché qui est la cause de tous les malheurs, pour nous comme pour les autres. Et c'est le fait que le monde soit pécheur, et bien du coup, tout est faussé, et les choses ne vont pas comme on voudrait. Alors, la miséricorde, c'est Dieu. Dieu, il voit son peuple, il est miséricordieux, au point d'amener, d'envoyer son fils, qui ne fait qu'un avec lui, de l'envoyer dans le monde, de façon à être avec, dans toute la souffrance du monde, la souffrance qui est infligée justement par des gens qui sont dans le péché, et pour être victorieux, ne pas pour autant tourner le dos à Dieu, mais au contraire rester à lui dire oui jusqu'au bout. Et le salut que le Seigneur nous a donné, c'est bien ça, En lui, le Seigneur Jésus, l'humanité a dit un oui total et complet au Père. Et ce oui total et donné au Père, eh bien, c'est véritablement le prix de cette résistance qu'il a opposée à tout ce qui le seul et celle qui le faisait souffrir, en continuant sur la terre à dire oui jusqu'au bout, tout est accompli. Et donc, il y a ici, dans la part du Christ, d'une part, il est Dieu, il compatit à la misère du peuple, il vient, et il vient comme l'un d'entre eux, responsable d'entre eux, ayant le droit de parler à leur nom, à tous les hommes, il vient dire un oui total quand même au Père. Et à partir de là, le courant est rétabli entre Dieu et l'homme. Et alors, vous voyez, j'espère que je me suis fait comprendre un petit peu dans tout ça. Et, mais du coup, maintenant aussi, c'est à nous, chrétiens, à qui il a donné sa propre vie de la grâce, et à toutes les âmes de bonne volonté d'ailleurs, d'être les artisans en ce monde de la miséricorde. Les artisans, mais d'abord les bénéficiaires. Et il faut savoir comprendre que le Seigneur nous a pardonnés et nous pardonne chaque fois que nous voulons nous-mêmes nous retourner vers lui, lui avouer notre misère. Et non seulement il nous pardonne, mais quand nous sommes aussi dans d'autres misères que nous verrons, nous allons voir tout à l'heure, hein, eh bien, il est aussi là pour nous réconforter, pour nous aider à les vivre. Et nous savons que le Seigneur est avec nous quand nous sommes dans la souffrance. Alors, la miséricorde, finalement, pour ce qui s'agit de nous humains, c'est d'être miséricordieux, d'être compatissant et aimant. Envers qui? Eh bien, je dirais, peut-être je pense que vous étonnerez pas, à être d'abord compatissant envers nous. Savoir nous aimer nous-mêmes, nous aimer selon Dieu. Et on rencontre quelquefois des gens qui sont aigris et donc qui trouvent toujours le mauvais côté des choses et du coup, par rapport aux autres, eh bien, ils voient toujours aussi ce qui ne va pas, etc. On rencontre des personnes qui sont atteintes de cette misère. Mais très profondément, c'est parce qu'ils ou elles ne se sont pas acceptées elles-mêmes, aimées elles-mêmes d'abord. Et nous aimer nous-mêmes, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord nous accueillir tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos misères, avec nos manques, de toute manière. Je pense à quelqu'un que j'ai rencontré qui mesure 2 mètres. Moi-même, je mesure même pas 1,70 m, donc j'arrive pas à ses épaules. Je dis d'ailleurs en plaisantant quelquefois que pour être un bon carme, il faudrait mesurer 1,81 m, mais enfin, je crois que c'est une plaisanterie et une blague, parce que c'est pas juste, n'est-ce pas? Mais, bon, et je crois que, donc, il s'agit tout d'abord de nous aimer nous-mêmes et de nous aimer en vérité. Ce qui ne veut pas dire, justement, caresser nos petits défauts. Hein. Ce qui veut dire nous efforcer d'être les êtres humains, hommes ou femmes, que Dieu veut faire de nous, c'est-à-dire des êtres qui l'aiment, lui, et qui aiment leur prochain. Et pourquoi on l'aime le prochain? Eh bien, c'est parce que dans le prochain, on voit précisément, hein, Dieu auquel il faut répondre aussi. Et on voit aussi que nous sommes nous-mêmes les instruments auprès des autres de la miséricorde divine. Et donc là, il s'agit pour nous véritablement, hein, d'être des êtres miséricordieux, c'est-à-dire qu'ils sachent comprendre la souffrance, hein, et si possible, l'aider. Mais pour cela, encore une fois, il faut avoir de soi-même une bonne connaissance de l'amour que Dieu nous donne, et à partir de là, nous serons nous-mêmes aussi les artisans, au nom de Dieu, de cet amour. Voilà ce que je voulais vous dire un peu sur la miséricorde, vous voyez, résumons si vous le voulez tout simplement, n'est-ce pas, hein, le cœur de l'homme vers la misère, c'est-à-dire le pardon quand on a été blessé, par exemple, et la compassion dans la souffrance, en tout état de cause, avec le prochain. Tout en ayant de soi-même, eh bien aussi, la conviction, la foi véritablement, que le Seigneur nous a fait miséricorde. et qu'en conséquence, avec nos défauts, avec nos misères, etc., si nous nous tournons vers lui, nous n'avons pas à nous décourager. Alors, si vous le voulez bien, passons maintenant au carême. Le carême, c'est justement ce temps qui nous permet de nous préparer à Pâques. Pâques étant le jour, mais la semaine, disons, de la vie intense, liturgiquement, du mystère chrétien pour chacun d'entre nous. Alors il faut s'y préparer. Et le carême nous invite à nous y exercer. Et pour cela, l'Église nous propose 40 jours avant Pâques de préparation. Alors là, il nous faut faire appel à la Sainte Écriture. J'ai mis là quelques références. Hein. On pourra peut-être mettre quelques Bibles ici tout à l'heure, si peut-être certains d'entre vous l'ont déjà, n'est-ce pas, hein, bon, avec vous. Et donc pour percevoir justement, pour retrouver ce texte. Et il est bon d'insister sur le chiffre 40. Parce que le Seigneur lui-même, dans la Bible, eh bien, nous parle d'un certain nombre de quarantaines et qui nous peuvent nous donner le sens du Carmel. D'abord, si vous voulez, il y a le livre de l'Exode. Le peuple de Dieu était esclave. Dieu, le miséricordieux, veut le libérer de cet esclavage en Égypte, hein, et de le conduire dans la terre promise, où lui, Dieu, sera leur roi, et où ils seront en paix et dans la joie avec Dieu. Et voilà le peuple, donc, qui quitte l'Égypte, hein, qui doit pour ça traverser le désert du Sinaï. Et là, sous la conduite de Moïse, qui monte sur la montagne d'ailleurs, et qui reste là avec le Seigneur pour avoir ses consignes, il y reste 40 jours. 40 jours. Bon. C'est-à-dire un bon moment. Et pendant ce temps-là, justement, pendant ce bon moment, eh bien, les Juifs trouvent le moyen, le peuple de Dieu, à ce moment-là, trouve le moyen d'adorer le veau d'or. Alors, ça ne va plus du tout. L'alliance que Moïse voulait, que Dieu proposait à Moïse, ils auront tourné le dos. Et du coup, le Seigneur dit, on va y tourner le dos, bien, on va tourner le dos. Pendant 40 ans, ils sont restés en panne dans les déserts. Et c'est un peuple tout à fait nouveau, tout à fait renouvelé, puisque la plupart de ceux qui étaient partis avaient déjà disparu, n'est-ce pas, sinon tous, ou presque tous, n'est-ce pas. Il en restait quelques-uns simplement, dont Josué. Eh bien, oui, qui entre dans la terre promise. Mais il y a donc, vous voyez, toute cette marche du peuple au désert, ça, hein, bon, qui va nous donner le sens du mystère du désert. Nous en reparlerons dans un instant. Mais auparavant, continuons les allusions à la Bible. À un moment donné, sous le règne du roi Akab, hein, eh bien, le peuple d'Israël est vraiment se tourne vers les pratiques des païens, etc. Et Dieu suscite le prophète Élie pour remettre les choses en place. Et Élie prêche, en effet, hein, bon. Mais en même temps, il est menacé par la reine Jézabel, qui représentait précisément et qui était la première à recevoir les reproches et à les comprendre. Il est menacé de mort et il part, il s'enfuit. Et il s'enfuit vers où? vers le désert précisément, et vers le mont Horeb, là où l'alliance a été faite déjà entre Dieu et son peuple. Et il marche. Seulement il marche, mais au bout de 2 ou 3 jours, il en a assez lui-même. Il est découragé. Et il reste là jusqu'au moment où un envoyé de Dieu, et il dit d'ailleurs au demande au Seigneur, ben oui, fais-moi mourir, hein. J'en ai plein le dos, dirions-nous. Hein. Et un envoyé du Seigneur, un ange arrive avec ce qu'il faut pour qu'il mange et qu'il boive, et cette nourriture qui lui est procurée le fait marcher de nouveau 40 jours et 40 nuits jusque le mont Horeb, où précisément Dieu a fait alliance avec son peuple. Donc il y a la quarantaine, les 40 jours aussi du prophète Élie. Encore une autre chose, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, on ne parle pas de 40 jours. Mais c'est curieux, c'est aussi dans le désert qu'il baptise les gens. Hein. Oui. Tiens. Bon. Et il faut que les gens se rendent au désert pour recevoir le baptême de Jean-Baptiste et demander par ce baptême la rémission de leurs péchés, c'est-à-dire se retourner vers Dieu, hein, en lui demandant le pardon de tout ce qu'ils avaient fait, contrairement à lui. Et puis, dernier passage, le plus important peut-être, c'est aussi que le Seigneur lui-même, qui est venu pour rétablir le contact entre ce monde qui refusait Dieu, et le Père, il a commencé l'exercice public de sa mission en partant aussi 40 jours pour le désert. Et là, ça se trouve dans Saint Matthieu et dans les Saint Luc en particulier, dans les évangiles. Donc, le désert, la conclusion de tout cela, si vous voulez, c'est qu'on peut dire que bien. Le désert, c'est le lieu où on se prépare un peu mieux à rencontrer le Seigneur, à faire alliance avec lui ou à renouveler cette alliance. Alors, voyons ça d'un peu plus près maintenant. Ça, hein. Demandons-nous un petit peu ce que le désert peut signifier pour nous. Et aujourd'hui, même pour vous, c'est une journée de désert. Hein, c'est pour ça que, aussi, eh bien, par exemple, au repas, eh bien, on sera en silence aussi, n'est-ce pas, hein. Eh bien, le désert, voyons, il a 2 dimensions, je pense, qu'il faut retenir. C'est le lieu où, dirait M. de la Palice, c'est le lieu où il n'y a rien, voilà, le désert. On ne trouve rien, précisément. Et justement, si on ne trouve rien, il n'y aura rien non plus qui va attirer nos désirs, nos concupiscences, nous disons, nous voyons, qui sont, que nous trouvons constamment autour de nous dans le monde. Et donc, nous allons pouvoir, à ce moment-là, être disponibles pour la rencontre avec Dieu. Le désert est le lieu privilégié de la rencontre avec le Seigneur. Et quand le Seigneur veut faire des commissions importantes à tel ou tel des gens qu'il a choisis, eh bien, il l'emmène au désert aussi, généralement. Et dites-vous bien ceci, chacun d'entre vous, que si aujourd'hui vous avez fait le choix d'être là, c'est que le Seigneur a voulu aujourd'hui vous conduire au désert, tout simplement pour le rencontrer un peu mieux. Il faut voir les choses comme ça. Hein. Bon. Donc, le lieu de la rencontre. Mais c'est le lieu de la rencontre, mais c'est aussi le lieu de la tentation. Et même les Juifs avaient une idée qui probablement n'est pas mauvaise, en tout cas, oui, seulement même, c'est que le désert, c'est aussi le lieu favorisé ou choisi par le diable. Il y avait un rite chez les Juifs qui était significatif à ce point de vue-là. Une fois par an, on amenait deux boucs au temple. Alors, il y en a un qu'on offrait en sacrifice, et puis l'autre, eh bien, le prêtre, le grand prêtre, le prenait comme ça, lui mettait la tête, les mains sur la tête ou sur les cornes, et puis après, on l'expédiait au désert, tout simplement, ça, pour qu'il rejoigne, si on peut dire, son patron, ça, oui, avec tous les péchés du peuple qui étaient partis et envoyés pour tout ça, en enfer, tout ça, quoi, hein, ça, tout simplement. C'est le sens du bouc émissaire. Et ceci veut dire aussi, ça, que le désert est le lieu de la tentation. Le lieu où le plus nettement possible, nous pouvons dire non à celui qui veut nous faire dire non d'une manière aussi la plus manifeste. Et reprenons, si vous voulez, les textes-là. Les Hébreux, on sont restés 40 ans au désert. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient cédé à la tentation. Ils sont arrivés au bord de la terre promise, et puis ils ont dit, oh non, ce peuple-là, on n'arrivera jamais à le vaincre. Hein, alors, la peur les a fait succomber. Il lui a dit, bon, ben, alors, vous ne voulez pas y partir, ben, restez, revenez au désert. Et ils sont revenus au désert, où ils ont erré pendant longtemps, jusque précisément, renaissent tout un peuple, une génération nouvelle, qui n'ait pas peur, lui, qui fasse la... Donc, le peuple s'est ainsi affermi contre la tentation de la peur devant la conquête de la terre promise. Le prophète Élie, il est tenté, lui, par le découragement. Et là, nous nous retrouvons peut-être un peu plus chacun d'entre nous, peut-être parce que quand nous voulons prier, ça ne vient pas, on va y revenir, hein, on reste sec, hein, et aussi parce que on a beau lutter contre ses défauts, ben, ça continue, hein, et du coup, on peut être tenté aussi de demander l'armistice. Hein, dire au Seigneur, ben oui, j'en veux plus. Hein, le découragement. Et c'est souvent le découragement dans les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie pour continuer à faire notre devoir, ce que nous devons. Et vous voyez, je reprends encore les cas, c'est pour que, si vous êtes dans la Bible, j'apporterai quelques Bibles là en plus tout à l'heure, ça, eh bien, pour que vous puissiez précisément reprendre ces textes-là, retrouver un peu ces textes-là, oui, où, justement, le désert apparaît aussi comme le lieu de la tentation, mais aussi le lieu de la résurrection. Mais je continue, Jean-Baptiste, hein, eh bien, il reçoit au désert des soldats, des percepteurs, ce sont deux corporations qui étaient considérées un peu comme pécheresses en Israël. Hein, bon. Et il leur demande, ces gens leur demandent, mais qu'est-ce que nous devons faire ? Et Jean-Baptiste répond simplement, n'est-ce pas ? Eh bien, oui, partagez. Nous y reviendrons. Et Jésus lui-même, eh bien, avant de sa mission, il va au désert aussi, et là, hein, au bout de 40 jours, il connaît aussi la tentation, et il a lui-même à exercer ce combat en plein que nous avons nous-mêmes à exercer. Il faut voir ça. Parce que le Seigneur est tenté. Et il est tenté, vous voyez, de différentes manières. Le démon lui dit, tu as faim? Ah, écoute, t'es le fils de Dieu, tu peux tout. Alors, donc, c'est péché. C'est roche. Faisons du pain, et puis ça ira. Et il est tenté, donc, n'est-ce pas, de se satisfaire lui-même au lieu d'obéir à la volonté de Dieu, de son Père. Oui. Comme il est Dieu, bien sûr, il ne risque pas que ça s'oublie, mais comme dans toute son humanité, eh bien, il éprouve la faim et la tentation de manger avant que ce soit le temps. Mais il y a aussi à vaincre une tentation d'orgueil. Oh, cela est un peu grotesque, mais enfin, je crois qu'elle signifie ce qu'elle veut dire. Tu es le fils de Dieu. Mais fais donc des miracles, fais donc des choses étonnantes pour te faire connaître. Si un jour, évidemment, tu descendais, comme il faut, du haut du temple jusqu'en bas, on dirait, eh ben celui-ci, oui, s'il fait des miracles, hein, donc s'il dit qu'il est le fils de Dieu, ben, ça doit quand même valoir quelque chose. Et on voit là-dedans, dans cette tentation à la fois, combien le démon nous attaque par nos petits côtés, par notre orgueil. Là, tu es le fils de Dieu, bon, nous, il nous a donné quelques talents, on en profite, fais-en, mais fais-toi glorifié par cela. Oui. Et là, eh bien, c'est notre orgueil qui est mis en cause. Mais on voit en même temps la sottise du démon, parce que cette tentation est vraiment, par certains côtés, elle est grotesque. Et puis, il y a une troisième tentation, et c'est la plus dangereuse de toutes, la tentation du pouvoir. Le Seigneur est venu pour que tous les peuples croient en lui. Et Satan lui dit, tu vois tous ces peuples, je peux te les donner à toi. Oui, mais à la manière de Satan. C'est-à-dire, vous voyez là aussi que, bon, c'est en même temps la sottise, mais la sottise qui fait appel quand même, hein, oui, à ce que le Seigneur a de plus précieux, le sens de sa mission, de salut du monde, le faire à la manière de Satan, évidemment, en disant, ben, tout ira très bien, oui, oui, là, on honorera le Christ partout, à la manière de Satan. Donc, ces tentations, là, sont celles que nous rencontrons dans la vie, et plus particulièrement quand nous sommes au désert aussi, parce que là, nous pouvons les regarder en face, les voir en face. Et c'est tout cet après-midi, enfin, je vous dirai ça un petit peu, c'est ça, je pense, mais on fera autrement cet après-midi. Et donc, simplement, n'est-ce pas, eh bien là, nous avons à voir un peu plus clair dans notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Et le carême nous est donné aussi pour vivre ces 40 jours. Et pour vivre ce triomphe, ou du moins cette résolution de triompher des tentations. Et donc, il faut que nous arrivions ça c'est le sens du carême. Alors, notre carême à nous, que nous allons faire ces 40 jours qui viennent jusqu'à Pâques. C'est dans la pensée de tout cela, que je viens dire un peu, la miséricorde du Seigneur d'une part, et notre invitation à être nous-mêmes miséricordieux, et en même temps aussi, nous avons à vivre dans le désert, nous préparer tous ces 40 jours à vivre plus intensément notre vie chrétienne. Et l'Église nous propose trois directions de préparation, héritées d'ailleurs des Juifs. D'abord, je dirais le jeûne. Le jeûne, ben, vous savez quelle est la règle de l'Église actuellement. Les gens de 21 à 60 ans, le Seigneur leur demande, et l'Église aussi, de ne faire qu'un repas aujourd'hui, hein, quitte à avoir, bon, là, je dis exactement, là, ça, c'est qui, l'obligation, quitte à prendre un fruit filum, un morceau avant et ce soir éventuellement, mais jeûner, donc, n'est-ce pas, là. Et le vendredi saint de même, n'est-ce pas, là. Ces deux jours-là, sont jours d'obligation pour tous les gens qui sont en bonne santé et qui ne sont pas encore considérés comme trop vieux. C'est jamais défendu aux plus vieux, s'ils se portent bien, de faire pareil, une somme, et à partir de 60 ans, il n'y a plus l'obligation. Peut-être que l'Église, d'ailleurs, avec de la prolongation, pourrait dire jusqu'en 70 maintenant, mais enfin, ça, ça la regarde. Hein. Bon. Donc, il y a le jeûne, mais en plus du jeûne, il y a l'abstinence. L'abstinence, bon, manger de la viande, c'est considéré comme festif. En tout cas, les vendredis de carême, eh bien, on fait maigre aussi. Hein. Ça, ça fait partie de la vie de l'Église, maintenant. Les plus anciens parmi nous ont connu le temps où c'était tous les vendredis de l'année, n'est-ce pas ? Mais maintenant, l'Église demande que pendant le carême, ça continue, donc, qu'on fasse maigre. Hein. Bien. Mais le jeûne, c'est pas seulement, car ça ne concerne pas seulement la nourriture. Ça concerne aussi tout ce qui peut nous être agréable et donc qui risque de nous attacher au-delà de la volonté du Seigneur. Et donc, on peut jeûner aussi, et il est bon de jeûner aussi, le cinéma, par exemple. Hein ? Oui. De télévision, d'Internet, hein, quand c'est pour se faire, il est bon d'être... informé, ça c'est pas la question, bien sûr. Oui. Mais, quoi encore, hein? Des rencontres joyeuses. Hein? C'est pas le moment d'organiser. C'est pour ça d'ailleurs que le carnaval se faisait juste avant de la... Hein? Bon, c'est pas le moment de prévoir un carnaval autant que possible, quoi, hein, pendant ce temps-là. Mais ça, ça aussi, ça fait partie du jeûne, vous voyez, hein? Et... Ça, c'est le premier, la première chose que l'Église nous demande. Le deuxième, c'est l'aumône. Alors, je voudrais appeler ici quelque chose qui me paraît très beau. Vous avez entendu parler certainement du maréchal Leclerc. Maréchal Leclerc, donc, un des héros, n'est-ce pas, de la dernière guerre, oui. Et le maréchal Leclerc était un catholique convaincu, pratiquant. Et quand il est mort, on a trouvé une enveloppe dans ses papiers. Et sur cette enveloppe, dans cette enveloppe, il y avait une somme, 7000 et quelques francs, c'était encore des francs, hein, oui. Mais et une somme qui n'était pas ronde du tout. C'était 7000, peut-être avec des dixièmes et des quantaines. Bon. Et il y avait écrit dans l'enveloppe, économiser sur mes pipes pour une œuvre chrétienne, enfin une œuvre de bonté. Je crois que l'exercice, vraiment, ça vaut la peine d'être noté. Hein, hein, oui. Et l'aumône, c'est pas en effet de dire de ça va pas nous gêner beaucoup, ça c'est mon surplus, donc je donne. L'aumône, c'est le partage essentiellement. Le partage avec ceux qui sont moins favorisés que nous sur tel ou tel point, et donc qui ont besoin de nous d'une certaine manière. Ils peuvent avoir besoin de nos moyens d'existence, c'est-à-dire que nous puissions partager avec eux un peu de nos ressources, mais on peut faire aussi l'aumône de son temps, même si on n'est pas riche. Eh bien, on peut accepter de perdre du temps ou de donner du temps pour un coup de main à un voisin, pour, et surtout si c'est le moyen de se réconcilier avec lui, c'est encore mieux, n'est-ce pas ? Bon, et donc donner de son temps, donner aussi de son savoir-faire. on a été instruit de ceci ou de cela, on a des informations sur ceci ou cela, on a des capacités que l'on a, partager aussi un peu tout ça. Ça aussi, c'est l'aumône. Et ça peut être intéressant aujourd'hui, dans le désert, hein, eh bien, oui, d'y penser un peu et de voir si on ne peut pas faire quelque chose de ce côté-là. Hein, aussi, ou être prêt à répondre s'il y a telle ou telle sollicitation qui peut nous venir. L'aumône, donc, et il y a le plus important, le troisième, c'est la prière. La prière, c'est le plus important. Et la prière, oh, je pense que puisque vous êtes là, vous y voyez une relation très personnelle avec le Seigneur, soit ce n'est pas seulement des choses qu'on rabâche, qu'on dit, ça. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement la quantité de prières. Hein? Certains d'entre vous sont peut-être adonnés à un temps d'oraison dans la journée, un temps de prière, court peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure, peut-être une demi-heure, peu importe. Hein? Mais il s'agit peut-être pas tellement d'augmenter la quantité que d'augmenter la fidélité. C'est ce qu'il y a de plus important dans les décisions que l'on prend soi-même dans la prière. Être fidèle, et quand on a abandonné, ne pas se décourager et repartir à tous les coups. Ça, je crois que c'est important. Ce n'est pas une affaire de quantité, la prière dans la vie du chrétien, c'est une affaire de fidélité, d'abord. Alors, ça, c'est le désert que nous pouvons mettre pendant ces 40 jours, un peu plus, ce soir, oui, de manière plus avancée. Mais il y a un autre désert, celui qu'on n'a pas voulu volontairement, celui que la vie nous impose. La vie, c'est-à-dire ce qui nous arrive pour nous, et que nous avons à vivre, et bien sûr, avec la présence, la vigilance et l'accompagnement de Dieu. Et cela, nous pouvons être éprouvés dans notre travail, une profession, dans le chômage. Ça peut être une forme d'épreuve. Hein, mais même dans le travail, le renoncement qui nous coûte. Hein. Vous avez à travailler avec un patron dont la tête ne vous revient pas, ben oui, c'est là, tout simplement. Hein. Ça aussi, c'est le désert, vous comprenez? Oui. Hein. Donc, le travail, les relations, donc je parlais tout de suite d'un patron, mais les relations que l'on peut avoir, ça, avec éventuellement les réconciliations à prévoir ce moment-là, pendant ce temps de désert, hein, voir ce qu'on pourra faire. Les épreuves éventuelles qui peuvent nous tomber sur nous, le deuil, la maladie, l'éloignement, la séparation, simplement physique peut-être, mais quelquefois aussi psychologique et amicale, séparation d'enfants qui doivent partir au loin, ou d'êtres aimés, c'est ça ? Oui. Eh bien, tout ça, il faut que ce soit aussi considéré comme le désert que le Seigneur nous fait préparer en nous disant toujours, hein, que c'est pour nous préparer à la Pâque. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce dicton, le vendredi saint n'est jamais très loin du jour de Pâques. Je crois que c'est important d'y penser, oui. Quand on est dans l'épreuve, ça, reconnaître que c'est le désert, et en même temps, ça, eh bien oui, c'est la joie de Pâques. Et j'ajouterai une dernière chose, hein, comme forme de désert, la sécheresse dans la prière. Très souvent, vous voyez, peut-être certains d'entre vous ont fait l'expérience. On veut mener une vie chrétienne sérieuse, importante, et on se met à faire oraison, c'est-à-dire à faire prière personnelle et silencieuse, soit avec le Seigneur. Très souvent dans ces cas-là, au départ, le Seigneur nous donne des gâteaux, de la confiture pour nous encourager. Ça va bien, on a de bonnes pensées. Bon, et puis quand on est éprouvé, on trouve des consolations, on comprend les paroles de l'Écriture, qui viennent là à pic, ou bien on s'aperçoit aussi après qu'il y a tel événement qui répond à notre prière, très bien. Et puis un moment vient où le Seigneur nous juge assez fort à ce moment-là pour vivre avec lui qui est l'au-delà de tout. Et l'au-delà de tout, vous voyez, ça veut dire aussi qu'en un sens, je ne veux pas vous scandaliser, que Dieu est rien, c'est la même chose. Je ne veux pas dire du tout que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas, mais souvent, oui, parce qu'il est au-delà de tout ce qu'il peut nous faire, nous informer, nous faire aimer, nous faire, etc. N'est-ce pas, bon. C'est pour ça que son fils a voulu venir, pour que, alors là, on voit qu'il était avec nous, mais son fils lui-même, nous ne le voyons plus, nous, que dans l'Eucharistie, ou en dehors de là. Ou alors, peut-être aussi, justement, dans certains petits signes qui peuvent arriver. Mais la sécheresse dans la prière et dans la vie, ça fait partie aussi du désert. Ça. Et il est bon de s'en rendre compte aussi. Eh bien, voilà ce que je voulais vous dire, pour cette première rencontre. Je pense simplement, vous voyez, à la fin du désert. Et j'évoque ici un souvenir personnel. C'est ce qui se passait dans ma paroisse, une grande paroisse, enfin au moins pour mon nombre, de ma jeunesse, en ville, Il y avait les prédications du carême. Ça existe encore. Mais alors nous avions une semaine des jeunes filles et qui faisaient leur Pâques le dimanche de la Passion. C'est-à-dire pendant la semaine qui précédait, elles suivaient des interventions pour elles. Et puis il y avait leur communion spéciale à la messe de 8 heures le dimanche à la paroisse. La semaine suivante, on remettait ça pour les dames. Et je peux bien vous dire le souvenir personnel, à la maison, il n'y avait pas de jeunes filles, mais il y avait la mère et la grand-mère. Et donc, ce jour-là, elles assistaient, ou toute cette semaine, elles assistaient à combien. Et le dimanche, eh bien, c'était au papa de préparer le petit déjeuner, qui préparait avec des croissants. Et vous voyez, pour marquer que précisément, n'est-ce pas, eh bien, c'est les Pâques. Elles faisaient leur Pâques, les dames, le dimanche des rameaux. Et c'était le dimanche de Pâques que les hommes, après une semaine aussi d'instruction, n'est-ce pas, faisaient leur Pâques. Et ce jour-là, à la maison aussi, c'était les mamans, les dames, rendaient la chose à leur... Bon. Et je pense à ces quelques 200 ou 300 hommes, rien que des hommes, à la messe de 8 heures le dimanche de Pâques, qui faisaient leur Pâques et qui chantaient un credo, avec tout le... Vraiment. Je crois que c'est un signe assez significatif, vous voyez. On s'est préparé par le carême, on s'est préparé par la parole de Dieu, qui nous a dit, et au bout de tout ça, il y a déjà ce qui est un peu, très péniblement, mais enfin, l'espérance, l'image un peu de ce que sera l'autre monde pour nous. Alors, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire au carême, ça, pour cette première intervention. La seconde intervention, eh bien, j'aimerais bien que ce ne soit pas moi qui parle. Autrement dit, si vous voulez, j'aimerais bien répondre aux questions que vous pouvez vous poser, soit à partir de ce que j'ai pu dire, mais aussi à partir de la vie du carême. Et si vous voulez bien, je répondrai aux questions comme ça, hein, qui se poseront là sur place. Mais si vous avez des questions un peu plus précises, mettez-moi un petit billet ici sur la table, de façon que je puisse y répondre d'une manière un peu plus. Et mettez-les-moi, si vous voulez, avant 2 heures, ça, hein, oui. Comme ça, j'aurai le temps un peu, jusqu'à 3 heures, de réfléchir éventuellement. On fera ça tout simplement cet après-midi, c'est ce que je vous propose comme intervention. Voilà. Et sur ce, ben, je vous invite à aller prier à votre manière, chacun personnellement. Si vous êtes en couple, possible, n'est-ce pas, que vous puissiez à un moment donné échanger, même entre vous, sur ce que vous avez pu écouter, ce qui vous a marqué, mais après avoir seulement prié personnellement et silencieusement vous-même. Je crois que c'est important de ça d'abord.